sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter, alors à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Longtemps, en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion, mais l'ours. Admiré, vénéré, pensé comme un parent ou ancêtre de l'homme. Les cultes dont il a fait l'objet plusieurs dizaines de millénaires avant notre ère ont laissé des traces dans l'imaginaire et les mythologies jusqu'au cœur du Moyen-Âge chrétien. De bonne heure, l'Église chercha à les éradiquer. Prélats et théologiens étaient effrayés par la force brutale du fauve, par la fascination qu'il exerçait sur les rois et les chasseurs, et surtout par une croyance, largement répandue, selon laquelle l'ours mâle était sexuellement attiré par les jeunes femmes. Il les enlevait et les violait. De ces unions naissaient des êtres mi-hommes, mi-ours, tous guerriers invincibles, fondateurs de dynasties ou ancêtres totémiques. Le conte merveilleux, Jean de l'Ours, qu'on retrouve dans toute l'Eurasie en passant par la Chine et l'Afrique du Nord, en est un témoin. Une jeune femme est enlevée par un ours d'une taille prodigieuse. Il l'enferme dans une caverne en roulant un énorme rocher devant l'entrée. Il lui apporte à manger, à boire, de quoi se vêtir. Il la viole. Au bout de plusieurs mois, la jeune femme met au monde un enfant fils de l'ours, velu et fort comme son père, Jean de l'Ours. L'enfant grandit très vite et lorsqu'il est devenu assez fort, il pousse le rocher et fuit avec sa mère. Il commence une vie nouvelle parmi les hommes. Grâce à sa force, il rend de nombreux services, mais tue ses camarades d'école sans le vouloir. Apprenti chez un forgeron, il brise une enclume d'un seul coup. Il dépasse vite son maître et se fabrique une canne de fer d'un poids considérable de 500 livres à plusieurs quintaux. Jean de l'Ours part pour courir le monde. Chemin faisant, il rencontre trois gaillards d'une force phénoménale, chacun dans sa spécialité, qui vont l'accompagner. Parvenu dans un château mystérieux, ils s'y installent et y font la rencontre d'un personnage maléfique qui les défie et les bat l'un après l'autre. Mais il ne peut vaincre Jean de l'Ours et lui révèle le secret. Une ou plusieurs princesses sont prisonnières dans un palais souterrain. Jean de l'Ours descend au fond d'un puits vertigineux, doit surmonter de nouvelles épreuves, affronter des monstres pour enfin délivrer la princesse. Ses compagnons l'ayant abandonné, Jean de l'Ours et sa princesse ne peuvent regagner la surface qu'en montant sur le dos d'un aigle. Et il doit nourrir l'oiseau de viande pendant la longue remontée. À la fin, Jean de l'Ours se taille lui-même un morceau de sa cuisse pour arriver au terme de l'ascension. Il épousera la princesse tandis que les compagnons ingrats ont disparu, sont punis ou pardonnés selon les versions. L'anthropologue Marco Barré a souvent abordé ce conte avec des groupes d'adolescents. Il y voit depuis longtemps une grande fonction régulatrice. Et je le cite. Il m'est souvent arrivé de raconter ce conte à des élèves de lycée pro qui n'étaient pas du tout convaincus par l'art du conte. Mais après l'écoute de ce conte, de nombreuses questions émergeaient de leur part sur les phases du récit et sur les sens sous-jacents du conte. Ce brusque intérêt pour Jean de l'Ours m'a poussé à m'interroger sur les images projetées sur ce récit. Je me suis vite rendu compte que la plupart d'entre elles pouvaient faire appel à des émotions en résonance avec celles que ressentent les adolescents. Ainsi, l'enlèvement de la jeune femme et la naissance de l'enfant mi-homme, mi-ours conduisent à des questions sur l'animalité, sur les phases de développement où le corps n'est pas accepté tel qu'il est. L'arrivée au village après évasion de la grotte fait souvent parler de cette émotion liée à la sensation d'être rejeté, de cette difficulté à trouver sa place dans la société que les adolescents connaissent si bien. Le passage chez le forgeron évoque pour eux l'initiation, mais surtout l'initiateur. Les rencontres avec les trois personnages, Torchène, Lève-Montagne et Roude-Moulin, sont vite perçues comme des rencontres avec des adolescents non initiés. Le château où ils se réfugient enfin devient ce lieu où on pourrait vivre hors du monde. Chaque année, début février, en Haut-Vallespir, dans les Pyrénées-Orientales, les habitants de trois villages célèbrent l'ours en des fêtes et rituels de fécondité. Sur la plus grande place du village, les ours sont attrapés, assis et rasés par le barbier. Débarrassés de leur tête ou de leur peau, ramenés à leur humanité, ils entraînent alors dans la danse une jeune fille choisie dans l'assistance. À d'anciens rites agraires liés à la mort, à la fécondité et au passage de l'hiver au printemps, s'est surajoutée l'opposition du masculin et du féminin. Tandis que la reconnaissance du pouvoir de séduction des jeunes filles et de la virilité des garçons continue à en faire pour les deux sexes un rite de passage. Adieu le fille. Dans la Drôme, chaque année, à la fin de l'hiver, on enferme l'ours dans sa tanière. Dans la nuit du 1er au 2 février, si l'ours, sortant d'hibernation, voit son ombre, il rentrera dans sa tanière et l'hiver va alors durer 40 jours de plus. Les ours adulfis ne sont pas originaires de Sibérie ou même des Pyrénées, ils sont souvent très locaux et de sale caractère. Alors, la tradition veut qu'avant que les beaux jours ne reviennent, une nuit d'hiver, on enferme les ours dans leur tanière. Ainsi, cette nuit-là, les dieulfitois sortent discrètement dans la nuit et vont bloquer les ours chez eux. Pierre Martin, ancien forgeron et dieulfitois depuis des générations, a accepté de partager quelques souvenirs.
On ferme les ours. Mon père, il plaçait le matériel qu'il y avait devant la forge pour la nuit des ours, et puis c'est tout. Hein. Et puis lui, il s'en est occupé des ours, mon père. Il parait des petites plaques en fer avec deux trous. Et puis la nuit des ours, ils allaient. Un côté de la plaque, il a vissé sur le cadre de la porte, et l'autre côté, le vissé sur la porte. Ce qui fait que quand tu te trouvais le matin, tu avais un blocage par l'extérieur. Quoi. C'est une tradition qui ne remontait peut-être pas au Moyen-Âge, je ne sais pas. D'abord, on ne savait jamais qui est-ce qui fermait. Hein. Tu savais jamais que les dieulfitois enfermaient d'autres. Il n'y avait jamais de nom. Quoi. Des fois, c'était familial, peut-être, je ne sais pas. Ou c'était des bandes de copains. Parce que, par exemple, mon père, il le faisait avec le père Chauvin, avec les gens de Dieulefi, ses copains, avec les Tavans, les gens comme ça, quoi. Donc, ils partaient la nuit du 1er au 2, et ils allaient fermer les gens.
Et les ours, du coup, c'était qui?
Ben, l'ours, par définition, enfin, l'histoire de la légende, enfin, la légende de ce rite, quoi. C'est que les personnes qui étaient désagréables pendant l'année étaient considérées comme des ours. Un ours, tu le traduis par quelqu'un d'acariâtre, de pas gentil, de méchant, donc. Donc, quand l'ours commençait donc son hibernation début novembre, et l'a terminé le 1er 2 février. Donc, il y avait une légende qui disait que l'ours, quand il sortait sa tanière après son cycle d'hibernation, le matin du 2, s'il voyait son ombre, il prenait peur et il retournait dans sa tanière. Et l'hiver durait encore 40 jours. Donc, pour que l'hiver s'arrête, il fallait qu'on empêche l'ours de sortir pour pas qu'il voie son ombre. Alors, s'il faisait couvert, nuageux, bon, l'hiver était fini, mais s'il faisait soleil, l'hiver allait continuer. Donc, on ne voulait pas prendre le risque que l'hiver continue. Donc, on enfermait l'ours. Par extension, on a enfermé tous les gens qui étaient ours pour que l'hiver s'arrête. Donc, les gens qui n'étaient pas sympas, on les enfermait, on les empêchait de sortir. Il y avait quelqu'un qui tenait un café à Dieu le Fils qu'on considérait comme un ours. Bon, mais lui, il était systématiquement enfermé. Jean-Michel Arienzi, l'agent immobilier, il était systématiquement enfermé, ce qui fait que la nuit du 1er au 2, il allait coucher dans son agence immobilière. Durant, le photographe, qui n'était pas particulièrement ours, tu vois, parce que alors après, ça a un peu dérapé, quoi. Après, c'était n'importe quoi, on fermait tout le monde, ça.
C'est pas forcément des gens qui sont ours, mais c'est aussi leur fonction.
Ouais, aussi, ouais, ben la mairie était fermée systématiquement, aussi. Pité, sur Châteauroux, le café, le jeans, il était fermé. La forge, on a été fermé une fois. Alors, t'es bien servi que tu te dis, quelle connerie j'ai faite, à quel moment j'ai pas été sympa. Après, il y a peut-être des rivalités personnelles et tout, c'est des occasions de se venger sur certains trucs, sur certaines jalousies.
Oui.
À des moments, il faut des débordements. Je pense que c'était accepté. Parce qu'il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de... Fermer les ours, ça peut vouloir dire aussi, l'an prochain, tu seras un peu moins ours. Et puis, tu avais cette espèce de démarche qui était intéressante, quoi, où tu avais le matin à 7h, 7h30, tu n'avais pas tout Dieu le fit, quoi. Mais t'avais vachement de gens dans les rues, alors qu'un 2 février, dans Dieu le fit, à 7h30 du matin, t'as personne, quasiment, quoi, à part les mecs qui vont au boulot, quoi. Et là, les gens qui descendaient dans la rue pour voir qui avait été fermé. Il y a une espèce de procession, là, tu vois, sur les résultats, ben, l'ours. C'était sympa. C'était, comment dire, exaltant. Ah ben lui, il a bien mérité, lui. Mais bon, c'était pas méchant, si tu veux, mais bon. Voilà, qu'on réglait ses comptes. Et des fois, il faut que les comptes soient réglés. Je me rappelle, mon grand-père, il me racontait une anecdote. Un jour, ils avaient voulu fermer un type et ils avaient voulu raffiner la fermeture. Non seulement, il y avait fermé sa porte, mais ils avaient mis une échelle contre sa fenêtre pour lui barricader ses volets. Et au moment où ils allaient barricader les volets, le mec, il a ouvert les volets, le type, il était au sommet de l'échelle. Et le propriétaire, celui qui allait être enfermé, il a dit « Mais qu'est-ce qu'il fasse ?» Et l'autre, il est sur son échelle, il a dit « Promène !» Il s'était fait coincer, quoi. Alors, bon, voilà, quoi. Alors, le lendemain, tu savais qu'il t'avait fermé, alors tu réglais tes comptes, peut-être, je sais pas. Mais bon, il n'y avait jamais eu de violence et tout. Alors, à la fin, c'est vrai que ça dégénérait un peu, parce que après la commune, la municipalité, elle passait la matinée à nettoyer parce que c'était crade, quoi. Ils balançaient des trucs, c'était sale, quoi. C'était il y a 10 ans, mais je crois que ça fait moins 4 ou 5 ans qu'on ne ferme plus les ours. Ça a un peu dégénéré, ou ça a perdu de sa saveur et de son mystère, le jour où Canal Plus est venu filmer. Une année, Canal Plus, ils sont venus, et ils ont suivi les fermeurs, quoi, qui couraient dans les rues parce que les gendarmes leur couraient après et tout. Alors là, à partir du moment où la télé se mêle de choses qui ne les regardent pas, finalement, qui relèvent de la tradition personnelle, à partir du moment où c'est exposé sur la place publique, oui, c'est fini, quoi. Et oui, c'est ça. Moi, je pense que ça a été le déclencheur, hein, qui a cassé le truc. C'est quand l'image s'est emparée du rite et que l'ours, ben, il s'est vu dans le miroir et il a dit « Non, c'est pas moi qui fais ça ». Et là, maintenant, bon, après, les rites sont faits pour être... remplacer et modifier. Ce qui compte, c'est d'avoir des rites. Il nous faut des choses qui nous rassemblent. Il nous faut des rites. Si on n'a plus de rites, il va falloir en inventer. Une société sans rites, c'est peut-être une société qui disparaît.
Le calendrier rural traditionnel que l'Église médiévale s'est forcée de remplacer par un calendrier chrétien, situé vers la mi-novembre, le moment où l'ours entrait en hibernation. Cependant, plus vivaces encore étaient les fêtes, célébrant le moment où l'ours se réveillait et sortait de sa tanière pour voir si l'hiver était fini. Ça se passait une quarantaine de jours après le solstice d'hiver, vers l'extrême fin du mois de janvier ou au début de février, et durait parfois une semaine. C'est dans cette période calendaire que se déroulaient dans toute l'Europe les principales cérémonies ursines héritées des anciens cultes. Elles annonçaient les débordements futurs du carnaval. À ces dates, l'Église du Haut Moyen-Âge dut donc intervenir avec vigueur et placer un grand nombre de fêtes de saints à l'ours. Cela ne fut pas suffisant. Il restait dans cette tranche du calendrier une date, à nul autre pareille, celle où l'ours, ayant terminé son sommeil hivernal, sortait de sa tanière, observait le ciel, les nuages et les vents, et était censé prendre une décision quant à la suite de son hibernation. Dans beaucoup de régions de l'Europe tempérée, cet événement majeur de la vie animale passait pour avoir lieu le 2 février, quelquefois le 3. Ce jour-là, dans les sociétés rurales, fêtes et réjouissances commémoraient la sortie de l'ours. Les chants, les danses, les jeux et les mascarades ursines y tenaient une grande place. Mais ce qui effrayait les clercs et les prélats au plus haut degré, c'était les simulacres de rapt et de viol. Des hommes se couvraient de poils, se transformaient en ours mâles et faisaient semblant d'enlever des jeunes filles ou des jeunes femmes, puis de s'accoupler avec elles. Très tôt, dès le 5e siècle, l'Église chercha donc à christianiser cette date du 2 février, où les rituels païens semblaient encore plus vivaces et plus transgressifs qu'à n'importe quel autre moment de l'année. D'autant que la déshibernation de l'ours n'était pas seule en cause. Le souvenir des Lupercales romaines et des rites de fécondité qui les accompagnaient au milieu du mois de février n'avaient pas totalement disparu, du moins dans les traditions savantes. Ni peut-être celui de la grande fête de Proserpine, déesse romaine des enfers, au début du même mois. Mais surtout, dans toute l'Europe du Nord et du Nord-Ouest, différents rituels de purification célébraient la fin de l'hiver et le retour de la lumière. Chez les Celtes, par exemple, une grande fête, celle d'Imbolc, avait lieu le 1er février et glorifiait une déesse mère au nom variable. L'Église fixa ce jour-là la fête de Sainte Brigitte, patronne de l'Irlande et figure christianisée de plusieurs divinités du panthéon celtique. Le lendemain, le 2 février, pour étouffer tous les cultes et rites païens liés ou non à l'ours, elle plaça deux fêtes chrétiennes associées à la vie du Christ et à celle de la Vierge. La présentation de Jésus au temple et la purification de Marie. Deux grandes fêtes pour un seul jour. Liturgistes et théologiens avaient frappé fort. Pourtant, une fois encore, ça ne suffit pas. Non seulement les pratiques et croyances populaires liées à la déshibernation de l'ours ne disparurent pas complètement, mais les fêtes célébrant le retour du soleil et de la lumière restèrent bien présentes dans les campagnes septentrionales. Elles s'accompagnaient en général de feux de joie et de processions escortées de flambeaux. Au 5e siècle, pour y mettre fin, le pape Gélase institua la fête chrétienne des chandelles. Plusieurs de ses successeurs, des 6e et 7e siècles, précisèrent le sens de cette nouvelle fête et cherchèrent à en souligner la dimension chrétienne, pas toujours évidente, en la rattachant à la présentation de l'enfant Jésus au temple. Les processions avec chandelles, torches ou flambeaux, désormais bénies solennellement, n'étaient pas supprimées, mais réorientées. Au sortir de l'église paroissiale, elles devaient se diriger vers chacune des maisons du village et elles avaient pour mission de dissiper les ténèbres, d'éloigner les esprits du mal, de protéger des intempéries. Une troisième fête chrétienne trouvait ainsi sa place le 2 février, la Chandeleur. Toutefois, dans la plupart des campagnes de France où le souvenir de l'ours demeurait très vivant, cette fête fut souvent appelée du XIIe siècle au XVIIIe siècle non pas la Chandeleur, mais la Chandelours. Thank you.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Ils ont dit là, ils ont dit bois, ils ont dit la bûche de bois.
Ils ont dit là, ils ont dit bois, ils ont dit la bûche de bois.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Ils ont dit si, ils ont dit ça. Ils ont dit si, là, si, si, ça.
Ils ont dit si, ils ont dit ça. Ils ont dit si, là, si, si, ça.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Ils ont dit c'est qu'ils ont dit là. Ils ont dit c'est que l'homme est là.
Ils ont dit c'est qu'ils ont dit là. Ils ont dit c'est que l'homme est là.
Tout en disant n'importe quoi.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Ils ont dit fume, ils ont dit zi. Ils ont dit fume le fusil.
Ils ont dit fume, ils ont dit zi. Ils ont dit fume le fusil.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Trois petits ours s'en vont au bois tout en disant n'importe quoi.
Ils ont dit feu, ils ont dit sion. Ils ont dit faisons attention.
Ils ont dit feu, ils ont dit sion. Ils ont dit faisons attention.
Je ne m'en souviens plus. Et maman n'aimait pas parler de lui à chaque fois. Elle se raidissait et elle changeait de sujet. Je crois que jusqu'au bout, elle s'est tenue pour responsable de sa mort. Et peut-être bien qu'elle avait raison. Elle s'ennuyait au village. Vu qu'elle ne s'intéressait pas aux travaux des champs pendant que son mari allait labourer tout farot, elle traînait dans les bonnes vieilles forêts qu'elle connaissait bien. Et c'est ainsi qu'elle fit la connaissance d'un ours. La suite est claire comme de l'eau de roche. C'est une telle banalité. Bien peu de femmes leur résistent. Ils sont si grands, si tendres, si gauches, si velus. Et puis ce sont des séducteurs nés. Les femmes les attirent à ce point qu'ils ne perdent jamais une occasion de s'approcher de l'une d'entre elles pour leur grogner quelque chose à l'oreille. Dans le temps, lorsque notre peuple vivait encore en majorité dans la forêt, il y avait sans arrêt des histoires de femmes qui s'acoquinaient avec des plantigrades. Jusqu'à ce que le mari tombe sur les amoureux et chasse le grand brin. Bref. Le galant se mit à nous rendre visite toujours à l'heure où mon père était au champ. C'était une créature fort amicale, sale, mais qui a 5 ans de moins que moi se souvient de lui et m'a raconté qu'il lui apportait toujours du miel. Comme tous ses congénères, en ce temps-là, il parlait un petit peu, car ce sont les moins bêtes des animaux, à part les serpents, bien entendu, qui sont nos frères. Les ours, bien sûr, ils disaient pas grand-chose, hein, et ce qu'ils disaient n'était pas particulièrement intelligent, mais un amoureux a-t-il besoin d'être brillant? Et pour les choses de tous les jours, ça suffisait largement. Maintenant, bien sûr, tout a changé. Une ou deux fois, en revenant de la source, j'en ai vu et je leur ai sifflé quelques mots en guise de salut. Ils me fixent avec des yeux stupides, avant de se précipiter bruyamment dans les broussailles. Tout ce vernis de culture qu'ils avaient mis des siècles à acquérir grâce à leur commerce avec les hommes et les serpents s'est évaporé en un rien de temps. Ils sont redevenus des bêtes comme les autres, comme nous-mêmes, les humains, qui, à part moi, c'est encore la langue des serpents. Le monde va à volo. Et même la source, a un goût amer. Mais laissons cela. Du temps de mon enfance, les ours savaient encore échanger des idées avec les hommes. Ils n'avaient jamais vraiment été nos amis. Nous les regardions de trop haut. C'était quand même nous qui les tirions par l'oreille pour les arracher à leur ancestrale balourdise, qui leur manucurions leurs grosses pattes pleines de miel. À leur manière, ils étaient nos élèves, d'où notre sentiment de supériorité à leur égard. Sans parler de leur lascivité et de cette attirance incompréhensible que nos femmes éprouvaient pour eux, c'est pourquoi nous les considérions avec un rien de méfiance. Ce gros sac velu et libidineux, avec ma femme, quand même. Trop souvent, il y avait des poils d'ours dans notre lit. Mon père eut encore moins de chance que ça. C'est pas seulement des poils qu'il trouva dans son lit, mais un ours tout entier. En soi, c'était pas un gros problème. Il aurait suffi de lui siffler dessus bien fort et compère Brun, surpris in flagranti, aurait filé dans la forêt l'oreille basse, mais mon père avait déjà à moitié oublié la langue des serpents, vu qu'au village, elle ne servait à rien. Et puis, il la tenait pas en grande estime. Il pensait que la faucille et la meule à bras étaient d'une utilité bien supérieure. Aussi, en voyant le plantigrade dans sa couche, il grommela quelque chose en allemand. Et l'animal, troublé par ces paroles qu'il ne comprenait pas et tout énervé d'avoir été interrompu dans ses activités, lui arracha la tête d'un coup de gueule. Bon, évidemment, il le regretta tout de suite, car l'ours n'est pas un animal assoiffé de sang, contrairement au loup, par exemple. Le loup, ce n'est que sous l'emprise de la langue des serpents qu'il accepte de servir l'homme, de le porter sur son dos, de se laisser traire. Le loup, en vérité, c'est une bestiole sacrément dangereuse. Mais comme il n'y a pas de meilleur lait que le lait de louve dans la forêt, il faut bien s'en accommoder. Puis les mots des serpents le rendent doux comme une mésange. L'ours, en revanche, c'est un animal doué de raison. Celui qui venait de tuer mon père était au désespoir, et comme il avait commis ce meurtre en état de rut, il se châtia lui-même en se châtrant à coups de dents. Et puis maman et lui brûlèrent le corps et il s'enfuit au plus profond de la forêt après lui avoir déclaré qu'il ne se reverrait plus jamais. Sans doute cela convint-il à maman car, comme je l'ai dit, elle se sentait affreusement coupable. Et son attirance pour les ours s'évanouit sur le champ. De ce jour, elle cessa de les supporter. Dès qu'elle en voyait un, elle lui sifflait les mots qui l'obligeaient à s'écarter de son chemin.
C'était la dernière femelle d'ours pyrénéen. Elle s'appelait Cannelle. L'animal a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier, maintenu malgré la présence annoncée du plantigrade dans le secteur. Son ourson Canelito est livré à lui-même en vallée d'Aspe. Il est désormais orphelin.
Elle était reine de nos montagnes, humble matrone. Au fil des âges, son pelage était sa couronne. Elle était gardienne des ruisseaux, attirée par le reflet de la lune sur l'eau. Elle était l'héritage d'un monde si ancien que les loups face à elle aboyaient comme des chiens, contemplant les sommets et les neiges éternelles. C'était le royaume de Cannelle, dernière ours femelle d'une grande lignée, digne représentante de nos belles Pyrénées. Sur ces 12 contrées où les vaches font paître, l'être humain a chassé ses ancêtres. Des siècles d'écocides, de battues, sous le regard inquiet des chipaètes barbus. Était-ce la suite logique ou le destin peut-être? Bientôt Cannelle allait disparaître. Elle était reine de nos montagnes, mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne était le royaume de Cannelle. Elle a vu pousser les villages, s'échapper les lourdes fumées blanches des écobuages. Elle a vu la Bigorre devenir ce qu'elle est, des câbles et des pylônes traverser la vallée. Apeurée par le chant des clarines, partout des pâturages, des enclos, des prairies. Seule face au danger de perdre sa couronne, de plus en plus de bergers pour nourrir les hommes. Puis d'immenses barrages se dressèrent autour d'elle, créant des paysages de lacs artificiels, des routes par centaines, des baraques à touristes, des trous dans la falaise pour faire des raccourcis. Elle a contemplé le désastre, déplorant le silence des oiseaux dans les arbres, à l'ombre des reliefs des pasteurs en errance. Cannelle, combien d'espèces disparaissent en silence? À l'ombre des reliefs des pasteurs en errance. Cannelle, combien d'espèces disparaissent en silence? Elle était reine de nos montagnes, n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne, ne restez que vous, au revoir notre reine. La folie est humaine, un point de non-retour. Ils ont réintroduit quelques sources slovènes. Votre espèce est finie, éteinte pour toujours. Quand sous les yeux de votre ourson, victime d'un chasseur et des valeurs qu'il incarne, vous fûtes tué, sans raison, le 1er novembre 2004, en Béarn.
Tu t'aimes, Seyou.
Celles et ceux qui voudraient rencontrer plus pleinement l'ours, je vous invite à vous plonger dans le magnifique ouvrage de Michel Pastoureau, L'ours, histoire d'un roi déchu. Et puis aussi vous glisser dans la merveille littéraire d'Andrus Kirvirek, l'homme qui savait la langue des serpents. Vous trouverez toutes les références des ouvrages et musiques en bas de page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire-Desmarais et Harmonie Perrault pour la réalisation. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radiola. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de belles sorties de grotte et de très beaux printemps à venir.